Ce dîner cynégétique avait duré beaucoup plus longtemps que d'ordinaire et il était 9h lorsque nous quittâmes la table pour aller commencer la fabrication des cartouches. Je fus admis à y assister car je fis remarquer qu'il s'agissait d'une leçon de choses. Une demi-heure, pas plus, dit ma mère. Et elle emporta Paul qui, tout en dormant, gémissait de faibles protestations. Et d'abord, dit mon oncle, examinons les armes. Il alla prendre dans le buffet, derrière les assiettes, un bel étui de cuir fauve. Je fus tout honteux de ne pas l'avoir découvert plus tôt. Et il en tira un très joli fusil qui paraissait tout neuf. Les canons étaient d'un beau noir mat, la gâchette était nickelée, et sur la crosse sculptée s'allongeait un chien noyé dans le bois verni. Mon père prit l'arme de l'oncle, l'examina et fit un petit sifflement d'admiration. « C'est le cadeau de noces de mon frère aîné, dit l'oncle, un calibre 16 de Vernet Caron, à percussion centrale. » Il le reprit, fit jouer les verrous. L'arme s'ouvrit avec un joli clic et il regarda la lampe à travers les canons. « Parfaitement graissé, dit-il. Mais demain, nous reverrons ça de plus près. » Il se tourna vers mon père et dit « Où est le vôtre ?»« Dans ma chambre. » Il sortit à grands pas. J'ignorais qu'il possédât un fusil. Et je fus indigné qu'il eût gardé un si beau secret. Je tendis son retour avec une vive impatience, essayant de deviner par le son de ses pas et le bruit d'une clé en quel endroit il l'avait caché. Cet espionnage fut vain, et je l'entendis redescendre d'un pas pressé. Il nous apportait un grand étui jaune qu'il avait dû acheter à mon insu chez le brocanteur, car de longues éraflures disaient son âge et avouaient par leur fond blanchâtre que cet objet était l'ouvrage d'un fabricant de papier mâché. Il ouvrit cette dérisoire cartonnade et il dit avec un sourire un peu gêné « Celui-ci va faire une pauvre figure auprès d'une arme aussi moderne, mais c'est mon père qui me l'a donnée. » Ayant ainsi transformé cet antique pétoir en un respectable souvenir de famille, il tira de l'étui les trois morceaux d'un immense fusil. L'oncle les prit, les ajusta et les verrouilla avec une rapidité magique. Puis, considérant les dimensions de l'arme, il s'écria « Seigneur Dieu, c'est une arquebuse !»« Presque, dit mon père, mais il paraît qu'il est très précis. » « Ce n'est pas impossible, dit l'oncle. La crosse n'en était pas sculptée et elle avait perdu son vernis. La gâchette n'était pas nickelée et les chiens étaient si grands qu'ils avaient l'air d'un ouvrage de ferronnerie. Je me sentis un peu humilié. L'oncle Jules ouvrit la culasse et l'examina d'un air pensif. « Si ce n'est pas un calibre inconnu de l'ancien temps, dit-il, ça doit être un 12. »« Oui, c'est un 12, affirma mon père. J'ai acheté des 12 du calibre 12. »« À broche, bien entendu. »« Oui, à broche. » Il prit dans une boîte de carton deux ou trois cartouches vides qu'il tendit à l'oncle. De leur base de cuivre sortait un petit clou sans tête. L'oncle en glissa une dans le canon. « Il est légèrement dilaté, dit-il, mais c'est effectivement un 12 à broche. Ce système a été abandonné depuis assez longtemps, parce qu'il présente un certain danger. »« Quel danger ?» demanda ma mère. « Minime, dit l'oncle, mais danger tout de même. Voyez-vous, Augustine, c'est en frappant sur ce petit clou de cuivre que le chien met le feu à la poudre. » Mais ce petit clou est extérieur, rien ne le protège. Il peut recevoir un choc imprévu. Par exemple, si une cartouche échappe aux doigts du chasseur, et si elle tombe sur la broche, elle peut éclater à ses pieds. Ça ne serait pas mortel, dit Joseph d'un ton rassurant. Et puis, il ne m'arrivera jamais de laisser tomber une cartouche. Pourtant, dit ma mère à mi-voix, tu as laissé tomber trois fois la savonnette ce matin. D'abord, dit mon père, vexé, une savonnette est un objet extrêmement glissant, parce que c'est un corps gras, ce qui n'est pas le cas d'une cartouche. Ensuite, on ne prend guère de précautions quand on saisit une savonnette. On sait bien qu'elle n'explosera pas. Enfin, il faut ajouter que j'avais les yeux fermés, puisque je me savonnais la tête. Et aucun homme de bon sens ne ferme les yeux pour manipuler des cartouches. Donc, assure-toi sur ce point. Joseph a raison, dit l'oncle. Et je suis à peu près sûr qu'il ne laissera pas tomber ses munitions. Mais il peut y avoir d'autres accidents. J'en ai vu un très singulier. J'étais très jeune, puisque c'était le temps des fusils à broche. Le président de la société de chasse, M. Benazet, était si gros que de loin, la nuit, on l'aurait pris pour un demi-muit. Et il avait fallu coudre ensemble deux cartouchières pour lui en faire une. Un jour, après un bon déjeuner de chasseur, il a glissé, il a roulé du haut en bas des escaliers, avec son immense cartouchière autour du corps. Elle était garnie de cartouches à broche. On aurait dit un feu de peloton, et j'ai le regret de vous apprendre qu'il en est mort. Joseph, dit ma mère toute pâle, il faut acheter notre fusil, sinon tu n'iras pas à la chasse. « Allons donc, dit mon père en riant. D'abord, je n'ai rien à demi-muit. Et ensuite, je ne présiderai pas un bon déjeuner de chasseurs dans un pays de grands vinassiers, car je suis bien sûr que l'explosion de M. Benazet a dû libérer d'abord un geyser de vin rouge. »« C'est assez probable, dit l'oncle Jules en riant. Et d'ailleurs, Augustine, je puis vous assurer qu'un tel accident est encore unique en son genre. » Il se leva brusquement et épaula le calibre 12. Ma mère me cria « Reste où tu es, ne bouge pas !» L'oncle répéta 5 ou 6 fois sa manœuvre, visant tour à tour la pendule, la suspension, le tourne-broche. Enfin, il rendit sa sentence. Ce fusil est très ancien et il pèse 3 livres de trop. Mais il est bien en main et il monte bien à l'épaule. À mon avis, c'est une arme excellente. Mon père fit un beau sourire et il regardait l'assistance avec une certaine fierté lorsque l'oncle Jules ajouta « Si toutefois il n'éclate pas !»« Quoi ?» dit ma mère épouvantée. « Ne craignez rien, Augustine. Nous ferons tous les essais nécessaires et nous tirerons les premières cartouches à la ficelle. S'il éclate, Joseph n'aura plus de fusil, mais il conservera sa main droite et ses yeux. » Il examina de nouveau la culasse et dit encore « Il se pourrait aussi que sous l'effet d'une charge un peu forte, il change de calibre et se transforme en canardière. Enfin, nous serons fixés demain. Ce soir, préparons nos munitions. » Il prit une voix de commandement. « Tout d'abord, éteignez tous les feux de la maison. Le danger que représente cette lampe à pétrole est déjà assez grand. » Il se tourna vers moi pour ajouter « On ne plaisante pas avec la poudre. »